chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, nous avons l'étude numéro 10 sur la série « Ayez confiance ». Et cette étude numéro 10 terminera cette série. Le titre de cette dernière étude, c'est « Changez votre façon de penser et vous changerez tout ». Changez donc vos pensées et tout changera. Votre vie est déterminée par le genre de pensée que vous avez habituellement. Si toutefois vos pensées ne changent pas, vous suivrez votre vieux mode de vie ainsi que le démontre l'histoire suivante. Un gérant d'hôtel me raconta qu'une association de fournisseurs de salons de barbiers tenait un congrès dans son hôtel. Cette organisation avait un agent de publicité très entreprenant. Celui-ci se rendit dans une rue pauvre d'un quartier mal famé et trouva le spécimen d'être humain qui était le moins prometteur qu'il puisse trouver. On peut dire une créature hirsute, mal rasée, ivre et triste. Ce clochard a été amené à l'hôtel où ils lui firent une coupe de cheveux. Ils l'ont vêtu d'un bon complet, ils lui ont donné des vêtements de qualité, ils le parèrent d'un par-dessus, on peut dire d'apparence désinvolte, et même d'une canne. Bien sûr, pas n'importe quelle canne. Lorsque il émergea de cette remise à neuf, il était, on peut dire, un exemple merveilleux de l'art du transformisme, de transformation. Entre-temps, ils avaient photographié chaque étape de cette transformation et chaque photographie apparut dans le journal quotidien. Cela fut acclamé comme étant une affaire de publicité de première force. Tout le monde était surpris par ce que les barbiers avaient pu faire avec l'aide des tailleurs pour refaire un homme nouveau. Le gérant de l'hôtel, il était vraiment impressionné. Après le congrès, son intérêt pour l'homme demeura. Il dit à celui-ci, par un étrange concours de circonstances, vous avez été transformé en gentleman et tiré des bas quartiers. Maintenant, vous avez une grande opportunité à portée de la main. Je vais vous donner un emploi dans un autre hôtel que je gère et je vais vous appuyer et nous allons faire de vous un homme prospère. Quand vous rentrez dans ce nouveau travail, vous serez un autre homme. Et il lui a demandé quand c'est qu'il voulait commencer ce nouveau travail. L'homme a répondu du toc au toc. Eh bien, disons demain matin à 8 heures, pourquoi pas. Mais un léger doute a traversé l'esprit du gérant de l'hôtel, mais il accepta. Le doute revint à 8 heures le lendemain matin, lorsque son homme n'apparut pas du tout. Il ne se montra pas non plus de la journée. Alors le gérant, suivant une intuition, il s'est rendu sur la rue où l'on avait d'abord trouvé l'homme et, après une recherche, le trouva ivre mort, endormi sur des journaux dans une ruelle sombre. Ses beaux vêtements étaient froissés et sales. Le gérant d'hôtel raconta que cela fut l'expérience la plus décevante. Les barbiers ont peut-être été capables de le nettoyer à l'extérieur, vous comprenez bien. Mais vous ne pouvez jamais rien faire d'un homme jusqu'à ce que vous le changez à l'intérieur également. Et il ajouta tristement, « J'aurais aimé le tenir juste un peu plus longtemps, car ce qui n'allait pas chez cet homme était sa façon de penser. Peut-être si je l'avais eu à ma disposition un peu plus longtemps, aurais-je pu changer sa pensée et de ce fait le changer aussi. » Pour se faire pardonner son histoire déprimante, le gérant d'hôtel m'en raconta une autre. « J'ai quelqu'un qui peut faire oublier cet homme qui revenait à ses vieilles pensées, dit-il. Eh bien, cet homme que je voudrais vous présenter, c'est Jimmy. C'est le garçon d'ascenseur et chasseur. Il m'a été envoyé par une école religieuse qui était une école pour garçons délinquants. Il était un jeune homme brillant, accueillait tout le monde poliment et était toujours courtois. Il travaillait dur et avait de bonnes habitudes morales. Un jour, le garçon est venu me voir et dit « Je vais me marier. Voulez-vous être le garçon d'honneur ?» Alors le gérant de ce grand hôtel fut donc garçon d'honneur pour un chasseur, ce qui lui ressemblait exactement. Il est devenu intéressé par le garçon et un jour, il lui dit « Jimmy, vous êtes un individu peu habituel. Comment se fait-il que vous soyez ainsi? Vous avez quelque chose qui manque à la plupart des garçons. Qu'est-ce que c'est ?» Jimmy répondit, « Oh, je ne sais pas, à moins que ce ne soit ce qu'ils ont fait pour nous à l'école. » Eh bien, demanda-t-il, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous à l'école? Le garçon répondit d'un air pensif, « Oh, je ne sais pas, à moins que ce ne soit qu'ils nous ont amenés à penser d'une manière chrétienne. Je crois que c'est cela. Ils nous ont amenés à penser d'une manière de la foi chrétienne comme elle est enseignée dans la Sainte Bible. » Bien sûr, Jimmy a évolué. Il a découvert que la vie est exactement ce que nos pensées font d'elle. Il a appris à penser d'une manière différente d'avant. L'univers de l'homme n'est pas principalement constitué des circonstances qui l'entourent. Son type de pensée détermine exactement le type du monde dans lequel il vit. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes ce que vous pensez. Les hommes les plus sages de tous les temps ont dit cela. Il y a 2000 ans, vivait un empereur romain qui avait comme nom Marcus Aurelius. On l'a appelé l'homme le plus sage de l'Empire romain. Au cours de ses longues marches et de ses campagnes militaires, il s'assoyait près du feu de camp et écrivait ses pensées. Ces pensées ont été rassemblées dans un livre appelé « Les méditations de Marcus Aurelius ». Et l'un des plus grands héritages de l'Antiquité est l'une des plus grandes choses que cet homme sage ait dites dans sa vie. Il a dit « Votre vie est ce que vos pensées font d'elle ». Je répète, « Votre vie, c'est ce que vos pensées font d'elle ». L'homme le plus sage qui ait jamais vécu aux États-Unis d'Amérique, selon l'opinion de certaines personnes, ce fut Ralph Waldo Emerson. Et il a dit, « Un homme est ce à quoi il pense tout au long de la journée. » Et le plus sage de tous les livres, la Sainte Bible déclare, tel un homme pense dans son cœur, c'est-à-dire comme un homme pense dans son subconscient, tel il est. Ce que vous pensez, ce que vous avez pensé pendant une longue période de temps, ce que vous penserez au cours des jours qui viennent déterminera précisément ce que vous êtes. Et le type de mode dans lequel vous vivez. Voyez-vous, ce que vous pensez va déterminer ce que vous devenez. Changez vos pensées et vous changerez votre monde. Changez vos pensées correctement et tout se changera en paix intérieure, en bonheur et en pouvoir personnel. Que le renouvellement de votre jugement vous transforme. Romains 12, verset 2. Rien de plus sage n'a jamais été dit. Vous pouvez vous transformer le monde dans lequel vous vivez, les conditions à la maison, au travail, en fait toute votre vie. Et cela, par un renouvellement spirituel, simplement de vos pensées. Cette étude que nous terminons dans cette série, cette étude préconise une formule de vie qui accorde une grande importance au pouvoir de nos pensées pour changer nos conditions de vie. Le secret, comme Jimmy le chasseur le disait, consiste à penser d'une manière selon la foi chrétienne. La pensée spirituelle, qui est normale, peut changer la vie d'une personne au point de tout rendre différent. Les manières de penser qui ont été tracées sur de longues périodes de temps sont difficiles à modifier. Mal penser devient une habitude et les habitudes résistent au changement. Heureusement, dans le christianisme, nous avons un phénomène appelé l'expérience spirituelle. C'est un processus par lequel la puissance de Dieu accomplit parfois instantanément dans nos esprits, les corrections laborieuses et fastidieuses qui, on peut dire, prendraient des mois à apporter. Ce qui ne veut pas dire que toute expérience spirituelle est instantanée. Souvent, en fait, plus souvent, c'est un processus de croissance et de développement progressif. Peu importe de quelle façon l'expérience se produit, c'est une méthode supérieure à la discipline psychologique et qui qui est plus efficace et certaine de durer. Donc, cette comparaison ne doit pas être interprétée comme minimisante. On peut dire, oui, on peut bien dire ce mot, minimisant la valeur ou diminuant la valeur de la discipline psychologique, qui est une valeur que je reconnais volontiers. Conditionnez votre esprit au changement spirituel en pratiquant la pensée spirituelle. Lisez la Sainte Bible régulièrement. Apprenez ces passages par cœur, si c'est possible. Nourrissons ainsi votre esprit d'une matière qui transformera vos attitudes. Rencontrez des personnes orientées vers le spirituel et expérimentez le changement mental graduel résultant de conversations spirituelles. Soumettez votre esprit à l'atmosphère dans laquelle une expérience spirituelle se produira et fréquentez l'Église régulièrement. Habituez votre esprit à la prière. Pensez à Dieu et au Christ à chaque occasion. Persévérez jusqu'à ce que vous vous décriviez ou vous puissiez vous découvrir un certain goût marqué pour cette façon de discipliner votre pensée. Voyez-vous, ça a à faire avec la discipline. Je répète, persévérez jusqu'à ce que vous allez vous découvrir un goût marqué pour cette façon de discipliner votre pensée. Et dans ce processus, vous changerez votre façon de penser, permettant à l'expérience spirituelle de tout changer pour vous. On dit qu'un homme qui sait où il va et comment s'y rendre, qu'il est sur la bonne voie. Cela signifie qu'il a réduit l'élément d'erreur et qu'il se rapproche du centre de la vérité ou de l'efficacité. Une autre expression commune est « il a du plomb dans la tête ». Cela signifie qu'il possède l'habileté. Il a la petite touche nécessaire. Il sait comment s'y prendre. Une autre expression semblable est il est un maître en la matière, signifiant qu'il se dirige droit vers le centre de la cible. Il a maîtrisé la matière. Tout cela peut sembler assez éloigné de la religion, mais ça ne l'est pas. La Sainte Bible est très sage. Elle dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. » Je répète, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. » Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie simplement de rechercher l'habileté d'agir à la manière de Dieu, rechercher la droiture de Dieu. Le mot « justice » signifie « droiture », « habileté », « génie », la petite touche imperceptible qui fait toute la différence. Recherchez donc la justice que Dieu enseigne et vous obtiendrez l'habileté. Par conséquent, là où vous avez échoué jusqu'alors. Vous obtiendrez maintenant de l'habileté. Le malheur est qu'un tas de gens traversent la vie à tâtons, échouant, luttant, n'obtenant jamais tout à fait ce qu'ils recherchent, alors que tout peut être différent s'ils apprennent et s'ils pratiquent les simples principes du christianisme. Alors les choses, plutôt que de leur être enlevées, leur seront dispensées. La vie, plutôt que de leur glisser entre les doigts, coulera vers eux. Rien ne pourra les détruire, rien ne pourra les vaincre, rien ne pourra détruire la paix, le bonheur et l'utilité de leur vie. Un autre facteur dans le processus par lequel le fait de changer vos pensées change tout est la pratique de la psychologie de la joie. Si l'on s'attend à vivre une vie heureuse, on doit d'abord s'exercer à avoir des pensées heureuses. Si ainsi qu'il a été dit par des hommes sages, notre vie est ce que nos pensées la font alors, il va de soi qu'une existence heureuse doit résulter d'une façon de penser joyeuse. Il y a peu de chances pour qu'une pensée vague ou une pensée joyeuse, occasionnelle et isolée, puisse produire cet effet-là. Une personne doit délibérément décider d'incliner son esprit à penser joyeusement en tout temps. Disciplinez-vous quotidiennement à la pratique de la pensée joyeuse plutôt que de succomber à des pensées lugubres et dépressives. Les gens fabriquent leur propre malheur à partir du type de pensée qu'ils entretiennent. Ils peuvent posséder tous les facteurs nécessaires au bonheur, tout en n'ayant pas une existence plaisante et utile, parce que leurs pensées sont tombées dans l'habitude de la tristesse et du négativisme. Les gens développent facilement l'habitude de penser négativement. Ils se forment une façon de penser de dépression et d'échec. Comme résultat, ils se sentent déprimés mentalement, émotivement et physiquement. Plutôt que de pratiquer la psychologie de la joie, les gens qui échouent pratiquent la psychologie du pessimisme. Leur esprit devient rempli d'ombre et comme résultat, la vie est généralement remplie d'ombre également. Rappelez-vous cette importante vérité concernant votre vie. Il y a une tendance marquée dans la nature humaine de devenir semblable à ce que l'on pense et à ce que l'on pratique habituellement. Donc, décidez délibérément d'être une personne joyeuse dans vos pensées. Évidemment, cela demandera de la pratique. Ce sera très difficile au début, comme ça l'est toujours lorsque vous essayez de surmonter de vieilles habitudes mentales. Tout dans l'esprit résiste à l'abandon d'une habitude mentale. Mais si vous persévérez et si vous prenez votre esprit par la peau du cou, si l'on peut utiliser une telle expression, en l'asservissant, en étant déterminé à le contrôler. Vous atteindrez finalement votre but et votre esprit décède. On peut dire votre esprit va céder. Oui, c'est le mot. Votre esprit va céder à votre nouvelle détermination. Voyez-vous, lorsque Jésus-Christ a dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit totale. » Il formulait une vérité si puissante, si électrique, si profonde, que l'homme qui l'ignore passe carrément à côté du plus grand secours vers le succès et le bonheur. Cette vérité peut libérer de façon absolue une personnalité humaine. Psychologiquement, nous savons que la joie est un agent qui soulage et libère l'esprit. La joie vous permettra même de vous sentir mieux physiquement. Elle peut vous aider à détendre vos muscles. Elle peut libérer l'énergie. En un mot, elle a le pouvoir de vous rendre efficace, de rendre toute votre personnalité, le corps, le cerveau et l'esprit coordonnés. La joie vous aide à fonctionner efficacement. Si l'effet psychologique de la joie était mieux compris, celle-ci serait pratiquée délibérément et de façon enthousiaste par chaque personne intelligente. Apprenez donc l'habileté de vivre et pratiquez la foi chrétienne. Pensez joie et non pas tristesse. Lancez merveille devant la sagesse pénétrante de Jésus-Christ. De nos jours, les grands penseurs scientifiques de notre temps commencent seulement à apprendre les principes que Jésus-Christ enseignait, et il y a de cela plus de 2000 ans. Pensez-y, il y a plus de 20 siècles, il nous a dit que la psychologie de la joie soulageait les gens. Maintenant, à cette époque moderne, les psychiatres, les entraîneurs sportifs, les étudiants de l'esprit humain commencent seulement à reconnaître la vérité de ses enseignements. Il fut le premier à nous apprendre que lorsque une personne remplit ses pensées de joie spirituelle, cela libère des habiletés créatrices et amène le bonheur et le succès. Chers amis, en changeant vos pensées, vous pouvez aussi changer les situations et changer certaines situations. Ça, c'est une condition préalable au succès et au bonheur. Vous pouvez développer une puissance presque, on peut dire, incroyable qui vous aidera lors de crises où autrement vous échoueriez sûrement. Vous dépendez trop de méthodes autres que les méthodes de nature spirituelle pour vous donner la force et la puissance. Nous n'avons pas encore appris à croire dans la puissance extraordinaire de la force spirituelle. Le soleil, calmement et silencieusement, peut accomplir ce que tout l'attirail de la machinerie du monde ne peut faire. La pensée spirituelle calme établit un contact avec l'énergie spirituelle et dote ainsi l'homme qui la pratique d'une force surhumaine. Et cela est vrai. Si vous disciplinez et entraînez votre esprit, cherchant constamment à l'amener en harmonie avec l'esprit du Christ, vous aussi, dans vos heures de difficulté, serez capable de faire appel à une puissance contre laquelle rien ne peut s'élever. Le bonheur et le succès, par conséquent, dépendent étrangement de notre habileté à libérer notre esprit pour qu'il travaille pour nous. Tout ce qui empêche le courant et l'énergie spirituelle de passer à travers l'esprit tend à nous abattre. Les hommes entravent leur esprit de plusieurs façons, par l'apitoiement, par l'anxiété, par l'intérêt personnel, par la convoitise et par la cupidité. Charles Dickens parlait sagement lorsqu'il disait « Nous portons les chaînes que nous forgeons dans la vie. Nous nous empêchons d'atteindre le désir de notre cœur par la façon cruelle dont nous embarrassons notre propre esprit. » Dans cette étude, nous avons essayé de souligner plusieurs des façons par lesquelles l'esprit peut se libérer. La science psychiatrique est d'un grand secours. Le problème qui consiste à démêler le fouillis de l'esprit des gens, eh bien, ce n'est pas facile du tout. Parfois, c'est un processus long, lent et fastidieux. Cela est souvent efficace, et je suis heureux de le dire. Il y a une grande efficacité dans le travail, on peut dire, conjoint. Ce travail conjoint du christianisme et de la psychiatrie. Toute psychiatrie n'est pas du diable. Toutefois, nous avons appris à compter sur un autre facteur qui guérit l'esprit de la même façon qu'une intervention chirurgicale peut guérir souvent les problèmes organiques qu'un long traitement n'est pas toujours parvenu à guérir. Peut-être puis-je mieux expliquer ce processus en lui appliquant un terme vieux et souvent incompris. Ce terme, cependant, est la meilleure explication possible. Le terme est conversion. C'est une nouvelle vie qui vous est donnée par Jésus-Christ. Et je l'utilise pour indiquer l'entrée dans l'esprit du pouvoir spirituel avec une telle force et une telle efficacité thérapeutique que l'esprit est complètement changé par une nouvelle naissance. Il y a une phrase dans le Nouveau Testament qui est très explicite et qui illustre ce qui se passe dans ce processus. Il est dit dans la deuxième épître de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous pouvez prendre la version Darby, excellent, mais aussi, si vous êtes catholique, la version de l'abbé Crampon ou des moines de Maredzou. Il y en a d'autres, la version de Jérusalem. Donc, si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est ce qu'il est dit dans le 2 Corinthiens. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle, c'est une nouvelle création. L'être ancien a disparu et un être nouveau est là. Deuxième épître de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, selon les diverses versions. Ce qui veut dire, changez vos pensées spirituellement et tout va changer. Un directeur de journal raconta avoir expérimenté ce processus dans son combat contre la crainte. Et oui, la crainte, ça c'est encore un problème. Cet homme qui était né au Canada, de parents canadiens français, il est venu au monde avec une jambe atrophiée. Et dès l'enfance, il a dû porter une prothèse. En grandissant, il a découvert qu'il ne pouvait compétitionner avec les autres garçons. S'il ne pouvait courir ou jouer ou grimper aux arbres comme petit garçon, comment pourrait-il grimper à l'échelle de la vie plus tard, raisonna-t-il. Ainsi la crainte, empoisonnante, on peut bien le dire, commença à pénétrer dans ses pensées et finalement la crainte créa une prothèse dans son esprit, comme celle qu'il portait à la jambe. Mais le père dit, « Mon cher fils, ne t'inquiète pas à propos de ta jambe. Un jour, je t'amènerai à la cathédrale et là, devant le grand autel, Dieu te guérira. » Le grand jour arriva. Le père et le fils, vêtus de leurs plus beaux habits, sont allés avec révérence à l'église. Ils descendirent l'allée de la cathédrale, main dans la main. Le garçon regardant autour avec curiosité, sa petite jambe atrophiée martelant le plancher. Ils s'agenouillèrent à l'autel. Le père dit, « Mon cher fils, prie et demande à Dieu notre Père de te guérir par Jésus-Christ qui a versé son sang précieux pour toi comme pour moi. » Ils ont prié tous les deux. Finalement, le garçon releva la tête. Son père était encore en prière. Puis le père releva la tête. Le garçon raconta quelques années plus tard quelque chose de merveilleux. Il dit ceci, « J'ai vu le visage de mon papa, de mon père, dans plusieurs circonstances, mais jamais auparavant, je n'avais vu une telle beauté surnaturelle que celle qu'il avait sur son visage en ce moment-là. Il y avait comme une lumière qui brillait là. C'était l'exculpation réfléchie du vrai croyant. Il y avait des larmes dans les yeux de mon papa. Mais au-delà des larmes se trouvait le soleil éblouissant de la profonde foi en son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'était une vision merveilleuse que le visage de mon père, que je n'oublierai jamais, dit le garçon. Ainsi le père posa maintenant, à ce moment même, sa main sur l'épaule du garçon et dit avec un sentiment profond, « Mon cher fils, remercions ensemble Dieu notre Père et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, car il t'a guéri. » Le garçon fut profondément impressionné. Il se leva, puis il baissa les yeux et il vit sa jambe toujours pareille. Ils s'engagèrent dans l'allée, la petite jambe martelant le plancher comme d'habitude. Le jeune homme était profondément déçu. Ils se rendirent presque à la grande porte de la cathédrale. Puis le garçon dit « Je m'arrêtais net. J'ai dû m'arrêter net, car quelque chose m'a arrêté. Car soudain, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de chaud dans mon cœur. Puis, il me sembla sentir comme une grande main qui se posa sur ma tête et me toucha. C'était aussi léger que du duvet d'Eder. Mais je peux encore ressentir aujourd'hui. Je peux sentir à la fois la délicatesse et la force du toucher. Et tout à coup, j'étais merveilleusement heureux et j'ai crié « Père, mon papa, tu as raison, j'ai été guéri. Oui, j'ai été guéri. Mais, vous avez compris, il a été guéri dans son esprit. Ce qui compte le plus. Voyez-vous, j'ai un petit problème à mon très grand âge. Je vais quand même doucement et tranquillement contre les 90 ans. Hein. Pas pour demain, mais si Dieu me donne vie, on ne sait jamais. Pas que j'y tienne trop, non. Je désire le servir jusqu'à ma mort. Mais ma carcasse s'est un peu diminuée de quelques centimètres. Et j'ai le canal lombaire un peu écrasé, trop étroit. Oh, cela n'est pas de tout repos, hein? Pour marcher, pas très loin. Et pour se relever d'une chaise, c'est laborieux. Pour dormir, ça va pas tout seul. Mais le Seigneur m'a donné une joie intérieure. Oh, on peut dire, oui, vous êtes une tête de boche, donc vous avez une volonté de faire. Non, 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 non. Pas de volonté de faire du tout. Non, absolument pas. Mais toute ma confiance est en Jésus-Christ. Chaque fois que je prépare une étude pour la parler le lendemain matin, de bonne heure, parce qu'il y a des raisons à cela que j'ai déjà expliquées, eh bien, il faut que je prie et que je demande à l'Esprit Saint qu'il s'empare de mon esprit, de ma bouche, de mon être tout entier et qu'il me guide et m'inspire. Ça ne vient pas tout cuit dans la bouche. Je dois utiliser de la discipline et de la volonté et de une certaine, comment faut-il dire cela en français, donc oui, on peut dire une grande maîtrise, il faut se concentrer, voyez-vous. Je n'ai rien contre les serviteurs qui m'ont dit qu'ils n'ont pas besoin de rien préparer, que le Saint-Esprit leur donne dans la bouche au moment voulu de parler sur l'estrade. Mais ce n'est pas mon cas. Avec un petit bagage comme j'ai eu, 4 ans d'école primaire, ce n'est pas très lourd, hein? Et on peut appeler ça un autodidacte en français. Donc, ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Ça ne me vient pas automatiquement. mais j'ai confiance. Absolument confiance. Ayez confiance. Je ne sais pas si c'est le pape polonais qui avait dit ça. Ayez confiance. Oui, ayons confiance, pas en nous, mais en Jésus-Christ, qui peut nous aider à faire des choses que nous serions dans l'impossibilité de faire. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir m'engager l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. Ils ne veulent pas m'accepter. Je ne vais pas pouvoir non plus essayer de demander pour faire le Tour de France. Ce sera même avec des drogues puissantes impossible. Ce n'est pas une question de manque de foi, c'est une question de logique. Le Seigneur ne nous demande pas de rejeter toute logique et toute raison de penser, de comprendre. Hein? Donc, simplement, la réalité est la réalité. Hein? Je cherche du travail à mon grand âge, mais on ne veut plus m'engager. Paraît-il, je suis quand même un peu trop vieux. Je plaisante, vous l'avez compris. Oui. Donc, rien ne va tout seul. Et je reviens à notre étude. Tout jeune qu'était ce garçon avec sa jambe, il était tout de même assez sage pour savoir ce qui s'était produit, voyez-vous. Écoutez bien cela. Il a dit, Dieu n'avait pas enlevé la prothèse de ma jambe, comme à moi non plus, il n'a pas corrigé le canal lombaire, mais il avait enlevé la prothèse de mon esprit. Dieu est assez grand pour guérir une jambe atrophiée ou un canal lombaire comme le mien, si cela est sa volonté. Mais peut-être est-ce une plus grande chose de guérir un esprit atrophié, un esprit tourmenté, qui porte la prothèse de la crainte. Enlevez cette prothèse, libérez l'esprit de façon à ce que plus jamais il ne soit lié et entravé par la crainte anormale ou n'importe quel autre ennemi du succès et du bonheur. Ça, c'est sûrement l'une des plus grandes choses en ce monde. Avec un esprit libéré, vos pensées, nos pensées changent. Et alors, on peut dire que tout change. Nous allons, si vous le voulez bien, terminer par la prière. Et je vous mettrai, pour autant que ça fonctionne, je ne suis pas très sûr, quelques chants quand j'avais fondé il y a 50 ans avec mon épouse une mission sur cassette, un écrasette mission. Oh ma foi, on n'avait certainement pas suffisamment prié, j'avoue même qu'on n'avait pas intercédé pour cela, c'était une grande erreur. Et on a mangé beaucoup d'argent pour peu de fruits. On doit aussi reconnaître nos échecs et nos fautes, car on en fait des fautes. Moi, j'en ai fait épouvantablement. J'ai dû demander pardon à de nombreux serviteurs de Dieu. Croyez-moi, c'est pas facile. Mais on doit le faire. Comment voulez-vous que le Seigneur nous pardonne si nous ne sommes incapables de demander pardon et de pardonner? Prions. Inspire-moi, cher Père, et Dieu trois fois saint, à rechercher et m'attendre à la santé aujourd'hui, non à des fins égoïstes, mais à des fins désintéressées. Permets-moi de recevoir ta force pour que je sois fort pour ce qui est juste. Permets-moi de recevoir ta joie pour que je puisse apporter le contentement dans ton monde. Permets-moi de recevoir ta paix pour que je puisse apporter l'harmonie dans ton monde. Permets-moi de recevoir ton amour pour que je puisse renoncer à moi-même pour le bien des autres. Pardonnez-moi de certaines répétitions. Permets-moi, ô Seigneur, de recevoir ta santé salutaire pour que je sois un exemple clair de la parfaite bonté dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles et dans tous mes actes. Je le demande en Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Amen. Et maintenant, je vais essayer, je dis bien essayer, espérons que ça marche, on verra bien, une cassette du temps où j'avais donc fondé une cassette de mission. Essayons, hein. Et je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse car il vous aime. Et je vous aime. Mais le Seigneur vous aime au-delà de tout ce qu'un être humain peut aimer. Donc, cette série est terminée aujourd'hui et je commence, Dieu voulant, demain matin, une nouvelle série. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, Eureka, voyons si ça fonctionne.
Somewhere to my soul, how they linger. by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure, in the truest day once he meets, lovingly its heart of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Help me then in every tribulation, so to trust promises, O Lord, that I lose not this sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, the moments fleeting, till I reach the promised land. Till I reach the promised. soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. The sunshine tomorrow after the darkness is gone.
Wonderful, wonderful day I will never forget. After I'd wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, for a tender, compassionate friend, he met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling, he made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. I've a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believed. Riches eternal and blessings supernal from his precious hand I received. My night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul.
Whispers, Daddy. I really love you. And my doubts just seem so small. He's made our home a heaven here below. And you ask me why I love him, why choose to walk this way, why find his service sweeter every day. It's the only life worth living. He's made our home complete. Oh, that's what Jesus means to me. Oh, that's what Jesus means to me. You can take all my possessions, all the things that men hold dear, all the precious gifts that this old world can hold. But the love I found at Calvary far exceeds my fondest dream. It's a love that can be bought by this world's gold. Then you ask me why I love him, why I choose to walk this way, why find his service sweeter every day. It's the little girl climbs on my knee. When the clouds of gloom and doubt would hover low, then she whispers, "Daddy, I really love you." And my doubts just seem so small. He's made our home a heaven here below. And you ask me why I choose to walk this way, why find his service sweeter every day? It's the only life.